العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Il y a un frère qui m'a fait remarquer avant que je commence le cours. L'autre fois, j'avais dit c'est une erreur de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il envoie une lettre à César. Parce que c'est impossible, parce que César il est mort. Mais en fait, non, parce que le titre César, c'est comme le titre Pharaon ou Kisra. C'est-à-dire c'est un titre qui se répétait chez les empereurs romains qui sont venus après César. Donc en fait, il y avait quelqu'un, l'empereur romain de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pouvait l'appeler César. Donc c'est pas une erreur de dire César. Donc on va prendre pour l'instant on va prendre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid de Sheikh Saleh al-Fawzan. On va faire l'explication de Kitab al-Tawhid la plus simple possible pour dire qu'on est fini Kitab al-Tawhid et qu'on ait compris ce que c'est Kitab al-Tawhid, le sens des chapitres, etc. Donc il dit Kitab, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il dit Kitab al-Tawhid. Donc c'est comme ça que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab il a commencé son livre Kitab al-Tawhid. Donc ensuite il a dit wa qawli Allahi ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudun. Et la parole d'Allah ta'ala, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit wa khalaqtu al-khalqu huwa ibda'u shay'i min ghayri aslin wa ihtida. Al-khalq dans la langue arabe, donc Cheikh il explique à chaque fois les mots qui sont dans les versets ou les hadiths, après il donne le sens général du verset. Al-Khalq en arabe c'est le fait de créer une chose sans modèle précédent, donc de faire apparaître une chose à partir du néant sans qu'elle ait un modèle précédent. Li'a'budun al-ibadatu fil lugha at-tadhallulu wal-khudu'u wa shar'an ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu. Donc quand il dit pour qu'il m'adore, c'est le terme qui vient du mot al-ibada. Al-ibada qu'on traduit par l'adoration dans la langue arabe c'est al-tadhallul wal-khudu', c'est-à-dire le fait de s'humilier et d'être humble devant quelque chose. Et il dit dans la religion c'est un mot qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et comme acte apparent ou caché. Bon, ça on a déjà expliqué. Et quand vous regardez dans d'autres explications de Kitab al-Tawhid, il donne des explications un peu plus amples. Et il dit par exemple qu'Ibn Kathir, il a dit dans son tafsir, on dit les Arabes disent Tariqun Mu'abbad. C'est un chemin Mu'abbad, ça veut dire il est plat, il est soumis, il est comment dire, il est simple, il est pas tortueux, il a pas de bosse, parce qu'il est, Mu'abbad, ça veut dire il a été écrasé. Donc c'est comme ça qu'on voit l'ibada par rapport à Tariq Mu'abbad. L'ibada c'est le fait de s'humilier devant la chose qu'on adore. Et aussi ils disent aussi dans les surah que l'ibada c'est ce qui regroupe l'amour extrême et l'humilité extrême et la crainte extrême. Donc la base de l'ibada c'est l'amour et le fait de s'humilier. Donc ensuite il dit al ma'na al ijmali lil aya anna Allah ta'ala akhbara annahu ma khalaqa al insa wal jinna illa li ibadatihi. Donc la signification globale du hadith c'est qu'Allah nous informe qu'il n'a créé les djinns et les humains que pour son adoration. Fa hiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Donc ce verset montre la sagesse qui est dans la création des djinns et des humains. Fa lam yurid minhum ma turiduhu as-sadatu min 'abidiha min al-i'anati lahum bir-rizqi wal-it'am. Donc Allah il n'a pas voulu ce que veulent habituellement les chefs ou les rois de leurs serviteurs quand ils leur demandent de les nourrir ou de subvenir à leurs besoins. Parce que quand vous regardez un roi, il a des serviteurs qui lui rendent, il le servent et il lui amène sa nourriture, etc., etc. Allah c'est pas ça qu'il a voulu des êtres humains, c'est-à-dire qu'il attend rien d'eux, parce que la suite du verset c'est je ne veux pas de subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Ce qu'il a voulu c'est seulement ce qu'on appelle la maslaha, c'est à dire c'est un bien pour eux. En fait il a voulu ce qui est bon pour eux. C'est à dire quelle est al-munasaba, c'est l'occasion, c'est à dire pourquoi il a mis ce verset dans ce chapitre. أنها تدل على وجوب التوحيد. Parce que ce verset montre l'obligation du tawhid. الذي هو إفراد الله بالعبادة. Qui est le fait de vouer son adoration à Allah seul. لأنه ما خلق الجن والإنس إلا لأجل التوحيد. Comment on montre ça à partir du verset? C'est parce qu'il dit qu'il a créé les djinns et les humains que pour cette chose-là. Donc, qu'est-ce qu'on trouve des fois dans d'autres explications? C'est par exemple, ils disent qu'on ne peut pas comprendre par là, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, dans le sens que je les ai destinés à m'adorer seulement. Mais plutôt, comme il l'a interprété Ali ibn Abi Talib ou Mujahid, c'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer. Et ensuite, il y en a qui adorent et il y en a qui n'adorent pas. Donc, il ne faut pas comprendre, j'ai destiné aux êtres humains de m'adorer. Parce qu'il y a des, on voit des êtres humains qui n'adorent pas Allah. Mais plutôt, je les ai créés pour leur ordonner de m'adorer. Ensuite, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. C'est comme ça que les salafs, ils ont interprété le verset. Et l'ibada, donc, c'est le fait de s'humilier. Et de... En fait, s'il dit, c'est rayatu at-tadhalluli wal-khudu'a. C'est-à-dire la ibada, elle est basée sur le fait de vouer un amour extrême à la chose qu'on adore et en même temps de la vénérer et de la craindre. Donc on s'humilie devant cette chose avec crainte et vénération et en même temps on l'aime. Donc c'est pas seulement la vénération ou seulement l'amour, c'est les deux. C'est-à-dire c'est un amour. C'est l'amour extrême et en même temps le fait de s'humilier et de se soumettre à la chose qu'on adore. C'est ça l'ibad. Ma yustafadu min al-aya. Qu'est-ce qu'on profite de ce verset? Awalan, wujubu ifradillahi bil-ibadati ala jami'i thaqalain al-jinni wal-ins. L'obligation d'unifier Allah dans son adoration, qui est cette adoration, elle a imposé à ce qu'on appelle al-thaqalain, c'est-à-dire les djinns et les humains. Donc il faut, ça c'est important de savoir que les djinns, ils sont ordonnés au même titre que les humains d'adorer Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi été envoyé pour eux. Et le Coran, il a aussi été descendu pour eux. Donc ne pas croire que les djinns, c'est tous des shayatins. Mais les shayatins, ce n'est qu'une catégorie de djinns. C'est ceux qui servent Iblis. Quant au reste des djinns, il y a parmi eux des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées, etc. etc. Bayanul hikmati min khalqid djinni wal ins. Ensuite, ce verset nous montre quelle est la sagesse qu'il y a dans la création des djinns et des humains. Donc, alhamdoulilah, ce verset nous répond simplement à une question qui est grave pour la majorité des êtres humains. C'est-à-dire, combien d'êtres humains ils se posent la question « qu'est-ce que je fais sur terre ?» etc. Et la réponse, elle est dans ce verset. Pourquoi je suis là? Si on demande à un musulman pourquoi Allah il a créé cette création, c'est la réponse, elle est dans ce verset. C'est pour qu'il l'adore. ثالثا أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق. Et aussi donc par rapport au fait que la sagesse dans la création des djinns et des humains c'est l'adoration d'Allah, ça montre la nullité de ce que disent certains soufis, comme quoi sans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la création n'aurait pas eu lieu et que tout a été créé pour lui, par rapport à lui. Donc ça c'est nul, ça c'est vain. Au contraire, la création elle a été créée pour adorer Allah. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il leur a été envoyé pour leur montrer comment. أن الخالق هو الذي يستحق العبادة دون غيره ممن لا يخلق. ففي هذا رد على عباد الأصنام وغيرها. Donc ce verset, on peut en comprendre aussi, ce qui est mentionné beaucoup de fois dans le Coran, que le Créateur, c'est lui qui a droit à l'adoration, et non pas autre que lui qui ne crée pas. Puisqu'il est le seul à créer, c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et dans ça, il y a une réplique et un argument contre ceux qui adorent les statues, parce qu'ils savent que leur statue, elle ne crée pas. Et souvent, dans le Coran, vous voyez ça, c'est-à-dire que Allah, il argumente pour Tawhid al-Uluhiyya, c'est-à-dire le droit à l'adoration que lui seul possède, par le fait que c'est lui qui a créé, c'est lui le possesseur des cieux et de la terre, etc. Bayanu rin Allah subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajati al-khalqi ilayhi li'annahu huwa al-khaliq wa hum makhluqun. Donc ce verset montre aussi qu'Allah se passe de sa création et il n'a pas besoin d'eux. Et que la création, c'est eux qui ont besoin de lui. Et ça, on le comprend à partir d'un des noms d'Allah qui est Al-Qayyum. Al-Qayyum ou alors As-Samad. لِأَنَّهُ هُوَ الْخَالِقُ. Parce que c'est lui qui est le créateur et eux sont les créatures. خَامِسًا إِذْبَاتُ الْحِكْمَةِ فِي أَفْعَالِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ. Cinquièmement, on en profite du fait d'affirmer que les actes d'Allah, dedans, il y a une hikmah. Al-hikmah, c'est le fait de mettre chaque chose à sa place. Donc, Ahl-Sunnah wa Jama'a, ils croient que les actes d'Allah, ils sont faits selon une hikmah, selon sa sagesse. Et ça, c'est ce qui découle des noms et des attributs d'Allah, parce qu'Allah, il est Al-Hakim. Contrairement à Ahl al-Bida', les gens de l'innovation et de la spéculation qui ne croient pas que derrière les actes d'Allah, il y a une sagesse. Ils disent qu'Allah, il fait des choses sans qu'il y ait une sagesse derrière. وقوله ensuite dans Kitab al-Tawhid il a dit وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Donc le verset qui dit nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour dire adorez Allah et écartez-vous du tawhid. Donc il dit le mot ba'athna ça veut dire arsalna, donc nous avons envoyé في كل أمة كل طائفة وقرن وجيل من الناس. Al-Umma, c'est-à-dire le tout groupe et toute période et toute génération parmi les gens. Al-Umma, c'est-à-dire un groupe de gens, une communauté. Rasoula, Ar-Rasoul, man ouhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighihi. Ar-Rasoul, certains ulama ils décrivent Ar-Rasoul comme étant une personne qui a reçu une révélation et qui a reçu une législation et qui est ordonnée de la transmettre. Alors qu'ils disent un prophète, c'est celui à qui il est révélé quelque chose, mais il n'est pas ordonné de le transmettre. Et d'autres ulama, ils disent, même si des fois dans les deux définitions il y a du rapprochement, ils disent en fait un nabi, ou plutôt on va commencer par Ar-Rasoul. Ar-Rasoul, c'est celui qui reçoit un message avec une nouvelle charia, c'est-à-dire une nouvelle loi. Et un nabi, c'est celui qui lui succède dans son peuple, donc lui aussi il reçoit la révélation d'Allah, mais la loi qu'il enseigne aux gens, c'est la même que celui du Rasoul. Il n'a pas un nouveau chara. Comme c'est le cas par exemple des prophètes qui ont suivi Moussa. Moussa, lui, c'était un Rasoul, parce qu'il a reçu le Tawrat dans laquelle il y avait des lois. Mais les prophètes qui lui ont succédé chez Bani Israël, c'était simplement des Anbiya, c'est-à-dire le pluriel de Nabi. C'est-à-dire c'est des gens qui avaient la révélation, mais au niveau de comment faire la salat, comment payer la zakat, comment faire le siyam, etc., ils suivaient la sharia de Moussa. Donc c'est ça la différence entre le Rasoul et le Nabi. Wallahu a'lam, c'est ce qui a été dit à peu près. U'budullah, afriduhu bil ibada, adorer Allah, c'est-à-dire unifiez-le dans l'adoration. Wajtanibu, utruku wa fariqu. Ijtanibu, ça veut dire délaissez et écartez-vous. At-tarut, mushtaqqun min at-turyan, wa huwa mujawazatul hadd. At-tarut, ça vient de at-turyan. At-turyan, c'est le fait de dépasser une limite en arabe. فكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et qui agrée le fait qu'on l'adore, c'est un taghout. Pourquoi il a dit et qui agrée le fait qu'on l'adore? Parce qu'il y a des gens vertueux qui sont adorés en dehors d'Allah et qui n'agréent pas ça. Et le meilleur exemple c'est Isa alayhi salam. C'est-à-dire que Isa il est adoré par les chrétiens en dehors d'Allah et pourtant on ne peut pas traiter Isa de taghout. Donc quelqu'un il pourrait me dire pourtant le verset il parle bien d'adoration d'Allah ou d'adoration du Tawhid. C'est parce que de toute façon celui qui adore même Isa ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a adoré le Tawhid. Le Tawhid c'est pas Isa ou Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est le shaitan qui l'a mené et qui lui a ordonné l'adoration de Isa ou de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'Allah il dit وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. C'est-à-dire le jour où nous allons tous les réunir et nous dirons aux anges, est-ce que ceux-là, c'est-à-dire les polythéistes, vous adorez? Qalu subhanaka anta waliyuhum min dunihim. Les anges y répondront, subhanak, c'est toi notre allié en dehors de eux. Bal kanu ya'budun al-jinna aktharuhum bihim mu'minun. C'est-à-dire ils diront, plutôt ils adoraient les djinns. Donc là ça parle des polythéistes qui adoraient les anges. Et qu'est-ce que les anges diront à Allah? Ils diront, ils adoraient les djinns. Pourtant c'est les anges qu'ils adoraient. Mais ils adoraient les djinns dans le sens ils obéissent au shaitan quand il les a détournés et leur a embelli l'adoration des anges. Donc toute personne qui adore autre qu'Allah, même s'il adore un prophète, quelque part il adore Tawhid parce qu'il a obéi au shaitan. Et shaitan c'est Tawhid. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسولا. Donc la signification globale du verset, c'est qu'Allah il nous informe qu'il a envoyé dans tout groupe et toute période parmi les gens un messager. يدعوهم إلى عبادة الله وحده. Il les appelle à l'adoration d'Allah seul. وترك عبادة ما سواه. Et le fait de délaisser l'adoration d'autres que lui. ف فلم يزل يرسل الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم. Et il a toujours envoyé les messagers aux gens depuis que le shirk, c'est-à-dire le polythéisme, est arrivé chez les fils d'Adam, c'est-à-dire les êtres humains, fi ahdi Nuh, à l'époque de Nuh, c'est-à-dire la première époque à laquelle est apparu shirk, c'est l'époque de Nuh. Et ça va venir dans un chapitre après dans Kitab al-Tawhid. C'est ce qui est dit par Ibn Abbas, radiallahu anhuma, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari, que le premier shirk qui est arrivé chez les êtres humains, c'est à l'époque de Nuh. Et entre Adam et Nuh, les êtres humains, pendant 10 générations, ils étaient tous sur le Tawhid. Ila an khatamahum bi Muhammad. Jusqu'à ce qu'il ait scellé la prophétie par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. مناسبة الآية للباب أن الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم. عليكم السلام ورحمة الله. Donc, quelle est l'occasion de ce verset par rapport au chapitre? C'est de dire que le fait d'appeler au tawhid et d'interdire le shirk, c'était ça la priorité de tous les messagers et de ceux qui les suivent. ما يستفاد من الآية. Et ça aussi, ça va venir dans un chapitre seul. ما يستفاد من الآية أولا أن الحكمة من إرسال الرسل هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. Premièrement, c'est de savoir que la sagesse qui est dans l'envoi des messagers, c'est le fait d'appeler au tawhid et d'interdire le shirk, le polythéisme. Donc c'est pour ça qu'ils ont été envoyés les messagers. La première chose, c'est pour appeler au tawhid et à l'adoration d'Allah seul. Donc les messagers, petite parenthèse, ils n'ont pas été envoyés aux gens pour montrer que Dieu il est unique, dans le sens dire aux gens qu'il faut croire à Dieu, croire au Créateur. C'était pas ça la dispute entre eux et leur peuple. Donc la dispute, la plupart des peuples auxquels étaient envoyés les messagers, c'était des gens qui croyaient à Allah, comme Quraysh. Mais la dispute entre les messagers et leur peuple, c'était pas de leur dire il y a un Dieu qui est au-dessus de nous. C'était de leur dire ce Dieu qui est au-dessus de nous, il faut l'adorer seul et pas lui associer quelqu'un dans l'adoration. ثانياً أن دين الأنبياء واحد وهو إخلاص العبادة لله وترك الشرك وإن اختلفت شرائعهم. Donc deuxièmement, c'est que la religion de tous les prophètes est unique. Et c'est le fait de vouer l'adoration à Allah seul et de délaisser le polythéisme, même si leurs lois peuvent diverger. C'est-à-dire que chaque messager est envoyé avec une loi qui peut lui être propre, mais la base de la religion de tous les messagers, c'est ça, c'est le tawhid. Mais ensuite, les lois qui leur étaient révélées, elles divergeaient selon les époques et les lieux. Donc la charia de Moussa, par exemple, elle n'est pas la même que celle de Isa, ou que celle d'Ibrahim, ou que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais la base, c'est la même chose, c'est l'adoration d'Allah. Troisièmement, c'est que le message a englobé toutes les communautés et que la preuve a été dressée contre tous les serviteurs. Donc ça, c'est important de savoir que ce verset nous montre. Et ça fait partie du point quand on dit Al-Iman bil-Anbiya ou Al-Iman bil-Rusul, c'est de croire, les ulama ils définissent Al-Iman bil-Rusul, la foi aux messagers, c'est de croire à tous les messagers et les prophètes qu'Allah nous a cités, et aussi ceux qu'Allah n'a pas cités, c'est-à-dire certains, on a leur nom, comme Lut, Ibrahim, Shu'aib, etc., alayhim salam, et d'autres qu'on ne connaît pas. Et le musulman il doit croire que chaque peuple qui existait sur terre, il a reçu un messager. Donc il ne faut pas croire que les messagers c'était seulement en terre de Palestine ou etc. ou en Irak, etc. Non, les messagers c'était dans tous les peuples. Et il ne faut pas venir avec des choubouettes. Si je parle de ça, c'est pas pour. Je parle de ça parce qu'il y a des gens qui sont touchés par ce genre d'ambiguïté en disant bah, pourquoi l'archéologie moderne elle ne nous montre pas des traces des prophètes d'avant. Il y a des frères qui sont touchés par ces choubouettes et qui sont déviés de la religion à cause des bêtises comme ça. Ils disent, subhanallah, s'il y avait des prophètes dans tous les peuples, où sont les traces? Premièrement, il faut savoir comment on répond à ce genre d'argument. Est-ce que la plupart des peuples, ils ont suivi les prophètes ou ils ont rejeté les prophètes? Ils ont rejeté les prophètes. S'ils ont rejeté les prophètes, est-ce qu'ils ont laissé les traces de ces prophètes ou est-ce qu'ils les ont rejetés aussi? Ils les ont effacés. Deuxièmement, est-ce que tout ce qui a existé dans l'humanité, on en trouve des traces archéologiques. Il faut pas dire n'importe quoi. On connaît pas tous les peuples qui sont passés, et toutes les langues qu'ils ont parlé, tous les livres qu'ils ont lus, etc., etc. Et beaucoup de ce qu'on trouve, de ce qu'ils nous montrent comme découverte archéologique, ça nous vient de qui? Est-ce que le musulman il prend sa science comme ça? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a appris? Allah, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Si un fasiq c'est quelqu'un qui désobéit à Allah, vous vient avec une nouvelle, alors faites attention. C'est-à-dire n'acceptez pas son information comme ça. Donc pourquoi quand des non-musulmans ils nous viennent en nous disant on a retrouvé ça dans l'archéologie, ou ça, ou ça, ou ça, on les croit automatiquement? Le musulman, il n'est pas censé les croire automatiquement. Surtout que l'archéologie, elle est beaucoup utilisée par les non-musulmans et pour à des fins idéologiques. C'est-à-dire qu'ils vont dire, par exemple, voilà à tel endroit, on a retrouvé tel et tel, comme ils font en Égypte, avec l'égyptologie. Ils montrent, il y avait tel pharaon, et la civilisation égyptienne, ils étaient comme ci, ils étaient comme ça, comme si c'était pour montrer au peuple égyptien, regardez, avant que l'islam vous vienne, vous aviez une civilisation, vous étiez des gens, etc., etc. Comme pour rappeler aux musulmans ce qu'il y avait avant l'islam. Comme pour réveiller en eux un certain ta'assoub, un certain amour de leur civilisation, de leur pays. Et quand vous regardez, ça a marché. Combien de populations berbères, elles se rattachent plus à leur barbarisme, entre guillemets, qu'à leur islam. Et elles revendiquent leur identité. Donc des fois, l'archéologie, il faut faire attention. Ils l'utilisent, et nous, on n'est pas censé croire tout ce qu'ils nous disent. Là-bas, on a retrouvé. Et il faut aussi savoir que souvent, leurs recherches, elles sont basées. Avant de chercher sous tel endroit, ils ont déjà une idéologie qui leur est propre. Donc des fois, c'est des chrétiens, et ils disent, à tel endroit, je vais trouver telle chose. Donc ensuite, chaque chose qu'ils trouvent, ils la tournent pour dire que c'est ça ou c'est ça. Ou alors, c'est un athée. Donc il dit, à tel endroit, je suis persuadé que je vais trouver telle chose. Et après, chaque chose qu'il trouve, il va le détourner pour dire, oui, en fait, c'était ci, c'était ça. Et après, les musulmans, ils disent, bah, pourquoi on ne retrouve pas des traces de tel et tel prophète? Et en plus, même si on voulait rentrer dans ça, donc on disait, on n'est pas censé croire tout ce qu'ils nous disent, leur science, là, qui prétendent, elle est détournée et elle c'est pas quelque chose de ferme. Troisièmement, on a dit toutes les traces de tout ce qui s'est passé dans l'humanité n'est pas censé rester sous terre. Quatrièmement, même si on recherche là-dedans, on va trouver des traces des prophètes, comme c'est le cas en Arabie Saoudite, où il y a encore les vestiges des peuples qu'Allah il a détruits. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran il dit voyager, regarder. Il y a par exemple Mada'in Salih en Arabie Saoudite, qui est encore présent, où on voit encore les maisons qui datent des milliers d'années, qui sont construites dans les montagnes, comme Allah il a dit dans le Coran, qui sont les maisons des peuples qu'Allah il a détruits. Ou alors des fois ils retrouvent des écrits, par exemple, voilà, je sors un peu du sujet, mais c'est important à savoir, parce que des fois il y a des choubouettes entre guillemets occidentales qui peuvent toucher des frères. Par exemple en Inde, des fois ils ont retrouvé des manuscrits qui datent des milliers d'années, où ça parle d'un Dieu unique à qui vous voyez qui a créé les sept cieux et les sept terres, et qui est au-dessus des sept cieux. Et ça, c'est en Inde. Donc comment en Inde ça correspond exactement à ce qu'il a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ça ne vient pas d'une même source, qui est la révélation? Donc il ne faut pas avoir ce genre de choubouette et croire, donc c'est important, c'est ce qu'il dit, c'est chir, que chaque peuple, il a reçu un messager. Et donc chaque peuple, la preuve, elle a été dressée contre lui, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, etc. Chaque peuple, il a reçu son messager. Quatrièmement, la grandeur du tawhid, parce qu'il est obligatoire à toutes les communautés. C'est-à-dire, dans ce verset, il y a ce qu'il y a dans la ilaha illallah comme négation et affirmation. C'est-à-dire que dans la ilaha illallah, il y a la ilaha, ça c'est nafi. La ilaha, pas de ilaha, pas de divinité. Illallah, ça c'est l'ithbat, sauf Allah, ça c'est l'affirmation. Fadallat ala annahu la yastaqimu at-tawhid illa bihima jami'an. Et ça nous montre que le tawhid ne sera complet, ne sera droit qu'avec les deux, c'est-à-dire avec un nafi, la négation, et l'affirmation. La négation de quoi? La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et l'affirmation de l'adoration, du droit à l'adoration d'Allah seul. C'est pour ça qu'il a dit, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager en disant quoi? U'budullah. Ça c'est l'affirmation que Allah il a le droit à l'adoration et on doit l'adorer. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on pourrait très bien, les êtres humains ils peuvent adorer Allah et adorer autre que lui. Donc les messagers ils disaient, adorez Allah, washtanibu ta'out, et écartez-vous du ta'out. Donc c'est comme dans la ilaha illallah. D'abord on renie la ilaha, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas une chose qui s'adore, illallah, sauf Allah. C'est lui seul qui a droit à l'adoration. Et ça on le retrouve dans beaucoup de versets, comme quand Allah il dit, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Après il dit, faman yakfur bit ta'out, al-nafi, wa yu'min billah, al-ithbat. Donc celui, Allah il dit dans ce verset, dans le Baqara, celui qui mécroit au ta'out, donc c'est une condition d'abord. D'abord mécroit au ta'out. Wa yu'min billah, et qui croit en Allah. Celui-là, il s'est attaché à l'anse la plus solide, qui est interprétée dans ce verset par la ilaha illallah. Donc c'est ça l'iman, c'est adorer Allah et s'écarter du ta'out. Donc de là, on comprend plus facilement pourquoi un mouchrik il n'est pas musulman. C'est-à-dire que ça ne suffit pas qu'il fasse sa salat et sa zakat si à côté de ça, il légitime l'adoration des awliya et des salihin. Et ça montre aussi, ça il l'a mentionné Cheikh Sulaiman ibn Abdullah, dont je vous lisais Taysir al-Aziz al-Hamid. Dans Taysir al-Aziz al-Hamid, il a dit fihi anna la budda fil iman min al-amal wa fihi raddun ala al-murji'a. C'est-à-dire, il dit, ça nous montre que l'iman, il faut absolument qu'il y ait des actes dedans. Parce que les messagers, qu'est-ce qu'ils disaient à Allah, au peuple? Ils disaient U'budullah. Et les ibadah, on a vu, c'est le fait d'obéir et le fait d'éviter les interdits. Donc ils n'ont pas dit seulement croyez en l'unicité d'Allah et écartez-vous du ta'out. Mais ils ont dit adorez Allah. Regardez la nuance. Donc c'est-à-dire que celui qui croit en l'unicité d'Allah mais qui ne l'adore pas, celui-là, il n'est pas musulman, il n'est pas mu'min. Parce que comme on avait vu dans les cours, l'iman, qawlun wa amal wa i'tiqad. C'est-à-dire que l'iman, auprès d'Ahl Sunnah wa Jama'a, est composé d'une croyance, de parole et d'actes. Et donc celui qui n'a pas de croyance ou pas de parole, c'est-à-dire il ne dit pas la ilaha illallah ou pas d'acte, donc celui-là, il n'est pas croyant. Contrairement à ce que disent al-Murji'a. Ce qu'on appelle al-Murji'a, donc ceux qui ont dévié dans le chapitre de l'iman. Et même, ça on l'avait vu, même ce qu'on appelle Murji'atul Fuqaha, donc ceux qui ont repris l'idée de Abu Hanifa rahimahullah, qui disait que l'iman chez eux c'était le fait de croire en son cœur et la parole qui est la shahada. Et le reste, c'est-à-dire les autres paroles comme la lecture du Coran ou le dhikr, et les actes extérieurs, ça s'appelle l'islam. Ils ont séparé les deux. Et ils ont dit l'un n'est pas l'autre. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils disaient? Ça on l'a fait. La iman bila islam wa la islam bila iman. Il disait l'iman, donc iman chez eux, c'est-à-dire la croyance avec la shahada. La iman, il n'y a pas d'iman bila islam, c'est-à-dire sans action. C'est-à-dire que si la personne fait la shahada et croit, ça ne sera pas accepté si elle n'a pas d'action qui va avec. Les actions, ne serait-ce que le minimum, pour celui qui dit que celui qui délaisse la salat n'est pas mécréant, le minimum d'action, ne serait-ce que dire assalamu alaikum en ayant conscience que c'est une obéissance. Et pour ceux qui voient que celui qui délaisse la salat c'est un mécréant, alors c'est au minimum faire la salat. Khamisan fil ayati, dans ça je l'ai dit déjà. Donc il disait que le tawhid il est fait absolument d'une affirmation et d'une négation. Parce que l'affirmation seule, c'est-à-dire de reconnaître le droit à l'adoration d'Allah, seulement, de dire seulement ça, ça n'empêche pas la personne de reconnaître le droit à l'adoration à autre qu'Allah. Donc quelqu'un il peut dire j'adore Allah, mais à côté il adore autre qu'Allah. Donc il faut absolument qu'il renie l'adoration d'autre qu'Allah. Et le fait de renier seul, ça suffit pas. Le fait de dire les autres divinités n'ont pas le droit d'être adorées, ça suffit pas tant que tu pratiques pas et tu reconnais pas l'adoration d'Allah seul. Donc voilà, c'est l'affirmation et la négation. Wa qawluhu, ensuite dans Kitab al-Tawhid, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, il a dit. C'est où qu'on voit les combien d'heures ça fait? Wa qawluhu وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا في سورة الإسراء. Donc il a dit, donc c'est un verset qui dit, ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et ayez de la bienfaisance envers les pères et mères, envers les parents. Ça c'est dans Surat al-Isra. Donc Cheikh Al-Fawzan dit qada amara wa wassa. Wal murad bil qada'i huna al qada'u shar'i ad-dini, la al qada'u al-qadari al-kawni. Donc qada, ça veut dire il a ordonné. Et ce qui est voulu ici, c'est al qada' al-shar'i, c'est-à-dire le jugement, ou al qada, c'est l'ordre religieux et non pas l'ordre qadari kawni, c'est-à-dire universel. Parce que le qada, tout ce qui est dérivé du mot qada, il peut être de deux sortes dans le Coran et la Sunna. Il y a le qada al-shar'i. Le qada al-shar'i, c'est le fait d'ordonner dans la religion. Donc Allah ordonne dans la religion. Et ça, donc, le qada al-shar'i, il concerne qu'une chose qu'Allah aime. Allah, il ne peut pas ordonner quelque chose qu'il n'aime pas. Allah, il ne fait qu'ordonner des choses qu'il aime. Et cette chose, elle peut être faite par les êtres humains comme elle peut ne pas être faite. Exemple, l'obligation de la salat, ça c'est un qada shar'i, c'est un ordre religieux, et donc on en déduit qu'Allah aime la salat. Si Allah nous l'a ordonné, c'est qu'il l'aime. Mais est-ce que tout le monde fait la salat? Non. Donc c'est ça la différence avec ce qu'on appelle el qada el kawni, l'ordre universel. El qada, des fois ça peut vouloir dire le fait qu'Allah destine telle et telle chose, c'est-à-dire il commande au niveau du destin telle et telle chose. Et ça, el qada el kawni, ça peut concerner quelque chose qu'Allah n'aime pas. Par exemple, Allah a destiné qu'il y aurait de la mécréance sur terre, et pourtant, est-ce qu'Allah aime la mécréance? Non. Et cette chose, lorsqu'Allah y destine une chose, forcément, elle se produit, contrairement à l'ordre religieux. Donc, al-qada al-kawni, al-qada al-shar'i. Donc ici, c'est le qada al-shar'i, c'est-à-dire Allah a décrété, ça ne veut pas dire Allah a destiné. Parce que les gens, il y en a qui adorent Allah seul et il y en a qui lui associent. Donc ça veut dire Allah a décrété dans la religion. Allah a ordonné, n'adorez que lui et soyez bienfaisants envers les parents. Rabbuka al-Rabbu wal-Malik al-Mutasarrif alladhi rabba jami' al-alamin bi-ni'matihi. Donc il dit al-Rabb, le traduit par Seigneur, c'est le possesseur, le gérant, celui qui a éduqué, entre guillemets, Rabba. Rabba, ça veut dire il les a fait. Rabba, c'est comme quand on dit Tarbiya, Tarbiya tel Awled, l'éducation des enfants. Allah, il a fait ça, c'est-à-dire il les a fait grandir, il les a élevés, il a pris soin d'eux. Tout ce qui existe par son bienfait. C'est-à-dire c'est lui qui les crée, c'est lui qui les fait évoluer. Allah ta'boudou illa iya, ay an ta'boudouhu wa la ta'boudou ghayrahu. Bon, ça c'est clair. Donc avec la bienfaisance envers les parents. C'est-à-dire qu'Allah a décrété et a ordonné que nous soyons bienfaisants envers les parents comme il a ordonné qu'on l'adore. Donc ça montre la grandeur du droit des parents. La signification globale du verset. الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه. Donc c'est qu'Allah nous a informé qu'il a ordonné par la langue de ses messagers qu'il soit adoré seul en dehors de ce qui est en dehors de lui. وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. Donc, et que l'enfant doit être bienfaisant envers ses parents par les paroles et par les actes, et qu'il ne doit pas se montrer malfaisant envers eux, c'est-à-dire il ne doit pas leur faire de mal, parce que c'est eux, c'est ses parents qui sont occupés de son éducation quand il était petit et faible, jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il devienne fort. Parce qu'en fait, la suite du verset, c'est Allah dit imma yablughanna indaka ahaduhuma aw kilahuma imma an yablugha al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. C'est-à-dire Allah dit si l'un d'entre eux ou les deux vieillissent à côté de toi, alors ne leur dis pas ouf. et voilà tanaharhuma, c'est-à-dire ne sois pas mauvais avec eux, et dis-leur une bonne parole. Ouf, en arabe, c'est une parole pour dire tu m'embêtes quoi. Vas-y, pars de là, tu m'embêtes, quelque chose comme ça. Donc Allah, il a ordonné de pas dire, il a interdit de dire ça aux parents. Mais il a bien dit, s'ils deviennent vieux. Pourquoi s'ils deviennent vieux? C'est parce que souvent, quand les parents ils deviennent vieux, ils deviennent embêtants en même temps. C'est-à-dire, plus la personne elle vieillit, et surtout les hommes. Vous voyez le papa, souvent quand il vieillit, ça devient comme un bébé. Pourquoi il s'occupe pas de moi? Pourquoi il fait pas attention à moi? Pourquoi vous m'écoutez pas? Vous faites des choses sans me demander mon avis. Il devient sec, il devient rude, etc., etc. Et la mère, c'est pareil. Plus elle vieillit, plus elle en fait qu'à sa tête, etc., etc. Donc Allah, il nous a ordonné qu'à ce moment-là, quand ils sont vieux, parce qu'Allah, il sait que souvent les parents, quand ils vieillissent, ils deviennent lourds pour leur enfant. Et donc, il nous a interdit à ce moment-là de leur dire ouf. C'est-à-dire de leur dire genre dégage ou laisse-moi tranquille ou des sales paroles. Mais au contraire, il a dit dis-leur une bonne parole. C'est-à-dire, il faut toujours répondre au mal des parents par du bien. Jamais leur répondre par le mal. Et est-ce que ça veut dire que quand ils sont pas vieux, j'ai le droit de leur dire ce que je veux? Non. Simplement, il a souligné quand ils sont vieux, parce que souvent, quand les parents sont vieux, c'est là qu'ils deviennent lourds pour les enfants. Alors qu'avant, quand ils ont leur raison, ils sont moins lourds que quand ils vont vieillir. مناسبة الآية للباب أن التوحيد هو آكد الحقوق وأوجب الواجبات لأن الله بدأ به في الآية ولا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم. Donc pourquoi il a mis ce verset dans Kitab al-Tawhid, dans ce chapitre, c'est pour montrer que le Tawhid c'est le plus grand des droits et la première des obligations, parce qu'Allah il a commencé par al-Tawhid avant le droit des parents. Ici dans le livre, je ne sais pas si c'est Cheikh Al-Fawzan qui l'a rajouté ou l'éditeur, il dit فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا فقالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور فقال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. Donc ça c'est un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim où le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit aux sahaba que parmi les Il a dit les plus grands des péchés, il a cité le shirk, c'est-à-dire le fait d'associer Allah, et en deuxième, il a dit la désobéissance aux parents. Ma yustafadu min al-aya awwalan anna at-tawhid huwa awwal ma amara Allah bihi min al-wajibat wa huwa awwal al-huquq al-wajibati 'ala al-'abd. Donc premièrement, on profite du verset que le tawhid, c'est la première chose qu'Allah a ordonnée parmi les obligations et c'est le premier droit obligatoire qui concerne l'être humain. Donc le premier droit que doit remplir l'être humain, c'est le droit d'Allah. ثانياً ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله كما سبق. Donc comme dans l'autre verset, c'est montré que la ilaha illallah dedans il y a l'affirmation et la négation. Parce qu'il a bien dit, ton Seigneur a décrété de n'adorer que lui. Donc c'est un ta'buduhu, donc Allah ta'budu illa iya. C'est comme la ilaha illallah, c'est la même chose. L'affirmation et la négation. Thalithan, azamatu haqq al-walidayn haythu 'atafa haqqahuma 'ala haqqihi wa ja'a fi al-martabati al-thaniya. Troisièmement, la grandeur du droit des parents, parce que Allah il l'a collé avec son droit. Donc il a cité son droit à lui, ensuite le droit des parents, ce qui montre la grandeur du droit des parents. Rabi'an, wujubu ihsan ila al-walidayn bi jami' anwa' al-ihsan li'annahu lam yakhuss naw'an duna naw'. Quatrièmement, l'obligation de se montrer bienfaisant envers les parents par toutes les catégories de bienfaisance, parce que Allah ici dans ce verset il n'a pas spécifié une bienfaisance par rapport à d'autres, certains actes par rapport à d'autres, c'est-à-dire que tous les actes de bienfaisance qui sont licites, qui ne sont pas en contradiction avec l'islam, eh ben ils sont compris dans ce verset, parce que le verset il a un sens général de l'ihsan. Donc toutes les façons d'être bienfaisant envers ses parents, on peut les pratiquer tant qu'elles ne contredisent pas à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc que ce soit par les bonnes paroles, par les cadeaux, par le khidma, c'est-à-dire par le service, le fait de les embrasser, tout. Rabi'an, خامساً تحريم عقوق الوالدين. Donc cinquièmement, l'interdiction de désobéir aux parents. Parce que c'est l'inverse de, c'est l'opposé à la bienfaisance. وقوله, donc ensuite dans le kitab al-Tawhid il dit وقوله وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا الْآيَةِ. Ensuite il a cité un verset qui est dans Surat al-Nisa, il a dit adorez Allah et ne lui associez rien. Donc ça ensuite le verset, la suite du verset c'est وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et la bienfaisance envers les parents, وَبِذِي الْقُرْبَى, et avec les proches, وَالْيَتَامَى, et les orphelins, وَالْمَسَاكِينَ, et les pauvres, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى, et le voisin proche, وَالْجَارِ الْجُنُوبِ, et le voisin lointain, وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, et le compagnon. Compagnon, ça peut être le collègue au travail, ou l'épouse, ou celui qui est avec toi en voyage, tout rentre dans la signification. وَبْنِ السَّبِيلِ, et le voyageur, c'est-à-dire le voyageur qui n'a plus d'argent, c'est-à-dire il n'a plus d'argent pour continuer son voyage. وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, et ce que vos mains possèdent, c'est-à-dire les esclaves, donc dans les époques où l'esclavage existe, ou les bêtes, les vaches, les chameaux, etc. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Allah n'aime pas celui qui est orgueilleux, مُخْتَال et فَخُور. Donc il dit ici Cheikh Al-Fawzan la tushriku يعني اترك الشرك وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. Donc il dit délaisser le shirk, et ici il donne la meilleure définition, la plus globale du shirk. Il dit c'est le fait de mettre à égal autre qu'Allah avec Allah dans ce qui est propre à Allah. Ça c'est la meilleure définition du shirk, c'est-à-dire quelque chose qui est du cas Allah ou qui est propre à Allah, autre qu'Allah, tu le mets à égal avec Allah dedans. Donc ça rentre dedans les noms, les attributs, l'adoration, Ar-Rububiya, etc., etc. Shay'an nakiratun fi siyaqin nahi fata'ummu shirk kabirahu wa saghirahu. Quand Allah il a dit ici la tushriku bihi shay'a, c'est-à-dire shay'a ça veut dire en arabe une chose, et il l'a mis à l'indéfini, ça veut dire ça englobe tout ce qui pourrait s'adorer en dehors d'Allah. Donc le verset ici montre bien que tout ce qui est en dehors d'Allah n'a pas le droit d'être associé à Allah. Donc Allah il n'a pas dit n'associez rien à Allah, sauf vous pouvez associer les prophètes ou les hommes pieux ou les anges, etc. Il a bien dit Shay'an, ça veut dire ça englobe tout. Tout n'a pas le droit d'être associé avec Allah. Et quand il a dit Wala tushriku, il n'a pas spécifié certaines catégories de shirk. Donc quand Allah dit ici Wala tushriku bihi shay'a, ça veut dire ne commettez aucune sorte de polythéisme avec aucune sorte de créature. Ces mots englobent toutes les catégories de shirk envers quoi que ce soit en dehors d'Allah. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, donc le sens global du verset, يأمر الله سبحانه عباده بعبادته وحده لا شريك له وينهاهم عن الشرك ولم يخص نوعا من أنواع العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا غيرهما ليعم الأمر جميع أنواع العبادة. Donc il dit Allah ordonne ses serviteurs de l'adorer lui seul et il les interdit de lui associer quoi que ce soit, sans spécifier une certaine catégorie d'adoration. C'est-à-dire dans tous les actes d'adoration on n'a pas le droit d'associer à Allah, que ce soit du'a ou la salat ou quoi que ce soit, pour que l'ordre englobe toutes les catégories d'adoration. Et il n'a pas spécifié dans son interdiction une certaine sorte de polythéisme pour que l'interdiction englobe toutes les sortes de polythéisme. مناسبة الآية للباب أنها ابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ففيها تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. Donc quelle est l'occasion de ce verset pour le chapitre? Il dit c'est parce que ce verset commence par l'obligation du tawhid et l'interdiction du shirk. Donc ça nous montre qu'est-ce que ça veut dire être tawhid. Ça, quand je vous lis tout ça, peut-être vous vous dites à vos têtes, il y a de la répétition, c'est relou, etc. C'est toujours pareil, il faut adorer Allah, il ne faut pas lui associer. Mais si vous écoutez bien le cours, vous vous rendez compte que ça, c'est des choses très importantes. Il y a des nuances entre chaque verset qu'il a mis Mohammed ibn Abdul Wahhab. Par exemple, ici, il a dit Fiha tafsir al-tawhid. C'est-à-dire que dans ce verset, on comprend qu'est-ce que c'est que l'explication du tawhid. Parce qu'Allah il a bien dit U'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. C'est-à-dire d'adorer Allah et de ne rien lui associer. Dans l'autre verset, c'était d'adorer Allah et de s'écarter du tarout. Donc c'est-à-dire que tarout, c'est ce qui s'associe à Allah, par exemple. Et ici, il montre aussi, donc je ne sais pas s'il va le citer après, en fait, pourquoi il a mis ce verset, c'est parce que ensuite il a cité, il a dit adorer Allah et ne lui associer rien, et ensuite il a dit la bienfaisance, il vous commande la bienfaisance envers les parents et envers les proches et les orphelins et les pauvres. Donc en fait, quand vous regardez, les ulama, ils ont appelé ce verset Ayat al-Huquq, le verset des droits, parce qu'il a cité toutes les catégories de gens qui ont un droit envers nous, qui ont un droit à ce qu'on soit bienfaisant envers eux. Mais qu'est-ce qu'il a mis avant tout ça? Il a mis le droit d'Allah, adorer Allah et ne lui associer rien. Dans le verset, on comprend aussi quand il dit wa'budullah wa la tushriku, que l'ibada qui est considérée dans l'islam, c'est celle qui est opposée au shirk, et que ce sera une ibada considérée que si elle est opposée au shirk, si elle est dénudée de shirk. C'est pour ça que quand vous regardez, Allah dit dans le Coran, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا تَعْبُدُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ. C'est-à-dire, ô vous les polythéistes, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. Pourtant, on a vu au début de la série des cours, les kuffars de Quraysh, ils adoraient Allah ou pas? Donc comment Allah il dit ici, wala antum abidun am a'bud, vous n'adorez pas ce que j'adore, pourtant ils adoraient Allah. C'est quoi la réponse? Pour ceux qui ont suivi, je viens de la dire. Donc ils associaient, mais ils adoraient quand même Allah. Ils adoraient pas seuls, donc leur adoration, elle n'est pas considérée comme une adoration valable. C'est une adoration dans la réalité, mais c'est pas l'adoration qui est voulue dans l'islam. Celle qui est voulue dans l'islam, c'est l'adoration qui est pas accompagné de shirk. Donc c'est pour ça il a dit vous n'adorez pas ce que j'adore, c'est-à-dire vous n'adorez pas Allah. Pourtant dans la réalité ils l'adoraient, mais leur adoration elle n'est pas acceptée parce qu'elle n'est pas dénudée de tout polythéisme. ما يستفاد من الآية وجوب إفراد الله بالعبادة لأن الله أمر بذلك أولا فهو آكد الواجبات. Donc premièrement on profite du verset, l'obligation d'unifier Allah dans l'adoration, parce qu'Allah a ordonné ça en premier. Donc c'est la plus importante des obligations. ثانياً تحريم الشرك لأن الله نهى عنه فهو أشد المحرمات. Donc à l'inverse, deuxièmement, on profite de l'interdiction du polythéisme, parce qu'Allah il l'a interdit, et c'est la plus dure des interdictions. ثالثاً أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. Donc pourquoi, je fais une parenthèse, quand on parle de tout ça, peut-être vous avez l'impression que c'est des répétitions, etc. Mais si vous regardez le commun des musulmans, ces simples choses-là, ils n'en ont pas conscience. C'est-à-dire que si tu leur demandes c'est quoi le tawhid, ils disent bah c'est je crois en Allah seul. Ça veut dire c'est lui qui est au-dessus, c'est lui qui m'a créé, mais c'est tout. Ou alors si tu lui dis c'est quoi l'adoration, il ne sait pas te répondre. Ou alors il dit bah j'obéis à Allah. Mais il ne se rend pas compte que l'adoration, elle implique que tu mécrois à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il ne sait même pas que l'islam, il est basé sur de la mécréance. La mécréance en quoi? La mécréance en ce qui est adoré en dehors d'Allah. L'islam, c'est de la croyance et de la mécréance. Croire en Allah et mécroire aux fausses divinités. Et beaucoup de gens, ils n'en ont aucune conscience. Ça veut dire que si tu lui disais, est-ce que tu adores avec Allah quelqu'un? Tu lui dis non, moi j'adore Allah seul. Il ne vaut aucun acte d'adoration à autre qu'Allah. Et si tu lui dis, mais qu'est-ce que tu penses des gens qui adorent les tombes et qui vouent des adorations à d'autres qu'Allah, il dit, Allah a'lam. Peut-être c'est un ijtihad ou chacun sa croyance. Et en disant ça, lui-même, il sort de l'islam. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a bien dit, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. C'est-à-dire qu'Allah, il a mis à la fois une condition. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتْ. Celui qui mécroit au tawhid et qui croit en Allah. C'est-à-dire que si la croyance du musulman n'est pas basée d'abord sur le fait de mécroire au tarout, sa croyance elle est nulle. C'est pour ça que l'islam, quand vous étudiez l'usul al-thalatha, c'est ce qu'il mentionne au début. En disant que, au début il parle du tawhid, après il parle du du fait de suivre la sunna, et après il parle de al-wala ou al-bara. Ça, c'est les trois bases de l'islam. Le tawhid, adorer Allah seul. Deuxièmement, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et troisièmement, le fait de se désavouer de la mécréance. Mais le fait de se désavouer de la mécréance, ça commence par le kufr bit tawhid, c'est-à-dire le fait de mécroire à ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc c'est pour ça que même si ça se répète, ben c'est pas un mal. ثالثا أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة لأن الله قرن الأمر بالعبادة بالنهي عن الشرك. Troisièmement, c'est que le fait de s'écarter du polythéisme est une condition dans la صحة العبادة, c'est-à-dire le fait que l'adoration soit authentique et soit acceptée, parce qu'Allah il a avoisiné, c'est-à-dire il a mis ensemble l'ordre de l'adoration avec l'interdiction du polythéisme. Ça, on l'a déjà expliqué. Rabi'an, anna ash-shirk haramun qalilun wa kathirun. Quatrièmement, c'est que le polythéisme est interdit, qu'il soit peu ou beaucoup. Kabirun wa saghirun, qu'il soit petit ou grand. Li'anna kalimata shay'an nakiratun fi siyaq an-nahy fata'um kull dhalik. Parce que quand il a dit la tushriku bihi shay'an, la tushriku, ça c'est un nahi, c'est une interdiction. Et quand il a dit shay'an, c'est un akira, c'est indéfini. Donc c'est nakiratun fi siyaq an-nahy muhim, ça veut dire que c'est tout ce qui ne lui associe rien. Ça englobe tout, c'est-à-dire toute chose ne doit pas être associée avec Allah. Khamisan, annahu la yajuzu an yushraka ma'a Allah ahadun fi ibadatihi. لا ملك ولا نبي ولا صالح من الأولياء ولا صنم لأن كلمة شيئا عامة. Donc cinquièmement, il dit, ça répète le quatrième, c'est que il est interdit d'associer à Allah quoi que ce soit, même si c'est un ange ou un prophète ou un homme pieux ou une statue, par rapport à ce qu'on a expliqué avec le mot shay'an dans le verset. وقوله ensuite il dit dans le kitab al-tawhid, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Donc le verset où Allah dit venez, je vais vous lire ce qu'Allah vous a interdit. Et il dit premièrement, ne lui associez rien, c'est-à-dire il vous a interdit de lui associer quoi que ce soit. ألا تشركوا به شيئا. Ça c'est un verset qui est dans surat Al-An'am, où Allah il a cité beaucoup d'ordres. Après il a dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, c'est-à-dire à la bienfaisance envers les pères et mères. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Et ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté, nous vous pourvoyons ainsi qu'eux-mêmes. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. N'approchez pas les turpitudes, ce qui en est apparent et ce qui en est caché. C'est-à-dire n'approchez pas les péchés. مَا ظَهَرَ, c'est-à-dire les péchés devant les gens. C'est-à-dire les péchés en secret. Ou alors ça veut dire ma vahara fuhshuhu, c'est-à-dire ce qui est clairement dégoûtant, qui est clair pour tout le monde. Ou ma batan, ça veut dire les choses qui sont interdites mais dont on ne comprend pas l'aspect mauvais. Les deux, on doit s'en écarter. Wala taqtulun nafs allati harrama Allahu illa bilhaq. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a interdit sauf de bon droit. Et le bon droit, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué dans le hadith qui est dans les 40 hadiths, où il a dit que c'est pour le gouverneur, il a le droit de tuer celui qui a tué quelqu'un, ou alors le fornicateur qui a déjà été marié, ou celui qui délaisse sa religion. Dhalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Voilà ce qu'il vous ordonne afin que vous raisonniez. Wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Et n'approchez pas les biens de l'orphelin si ce n'est de la meilleure façon jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté et la raison, c'est-à-dire que quand on confie à quelqu'un les biens d'un orphelin, l'orphelin c'est celui dont le père est mort quand il est petit, cette personne qui est responsable elle doit s'occuper de l'argent de l'orphelin de la meilleure façon, c'est-à-dire d'une façon licite, elle ne doit pas l'utiliser dans des choses interdites, et d'une façon à ce qu'elle fasse au moins augmenter les biens de l'orphelin et elle ne doit pas les dépenser à son profit outre mesure. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. Et remplissez la mesure et le poids avec justice, c'est-à-dire quand vous pesez, quand on vous dit donne-moi 3 kilos de banane, t'arnaques pas les gens en enlevant une banane et en disant voilà 3 kilos, etc. Ça c'est un exemple. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Nous n'imposons à une âme que ce qu'elle peut. C'est-à-dire que une fois que la personne elle a fait son effort pour donner la juste mesure dans les fruits ou dans quoi que ce soit, alors si il y a une exactitude qui lui a échappé, Allah ne va pas lui reprocher. Et quand vous parlez, soyez juste, même si c'est avec un proche. C'est-à-dire qu'il faut être juste dans nos propos, même si c'est en notre défaveur ou en la défaveur d'un proche. Et remplissez le pacte d'Allah, qui est l'ordre de l'adorer, etc. Voilà ce qu'il vous ordonne afin que vous vous souveniez. Et voici mon chemin droit, alors suivez-le. Et ne suivez pas les chemins qui vous écarteraient de son chemin. Voilà ce qu'il vous ordonne afin que vous soyez pieux. Donc il dit ta'alaw, c'est-à-dire halumu wa aqbilu. Atlu aqsusu alaykum wa ukhbirukum. Donc ça c'est clair dans la traduction. Harrama al-haramu al-mamnu'u minhu wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Donc quand il dit harrama, c'est-à-dire il vous a interdit, al-haram il traduit ici cher par celui qui le fait il est châtié. Et celui qui le délaisse, il est récompensé. Mais ça, en fait, c'est une définition rapide que Shirk a donnée. La vraie définition du haram, c'est ma nuhiya anhu nahyan jaziman. C'est-à-dire ce qui a été interdit d'une façon stricte. Et le makruh, c'est ma nuhiya anhu nahyan ghayra jazim. Le makruh, c'est en dessous du haram. C'est quelque chose qui est interdit, mais si tu le fais, tu ne portes pas de péché. Donc le haram dans l'islam c'est ce qui a été interdit d'un ordre strict, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit du tout de le faire, alors que le makruh c'est quelque chose qui a été interdit mais qu'entre guillemets tu as le droit de faire. Comment c'est interdit, tu as le droit de le faire, ça veut dire que si tu le fais tu ne portes pas de péché, mais il vaut mieux que tu l'évites. Donc le haram, celui qui le commet il est châtié, et c'est-à-dire en fait il mérite d'être châtié, après Allah peut lui pardonner. Et celui qui le délaisse pour se rapprocher d'Allah, il est récompensé, comme par exemple la fornication ou la désobéissance aux parents.
المعنى الإجمالي للآية يأمر الله نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم تقربا للأصنام فعلوا ذلك بآرائهم وتسخير الشيطان لهم هلموا أقص عليكم ما حرم خالقكم ومالككم تحريما حقا لا تخرصا وظنا بل بوحي منه وأمر من عنده وذلك فيما وصاكم به في هذه الوصايا العشر.
Donc la signification globale du verset, c'est qu'Allah il a ordonné à son prophète d'appeler les polythéistes qui ont adoré autre qu'Allah et qui se sont interdits ce qu'Allah leur a donné. C'est-à-dire ils interdisaient certains aliments ou certaines choses sans preuve. Et qui ont tué leurs enfants pour se rapprocher de leurs idoles. Ils ont fait ça à cause de leurs pensées et à cause du fait que Shaitan il leur a embelli ses actions. Donc le prophète, c'est comme s'il leur disait, venez et je vais vous montrer ce qu'Allah il vous a interdit. Ce que votre créateur, et non pas vos passions, vous a interdit. D'une vraie interdiction qui vient de la révélation et non pas qui vient de la pensée des hommes. Et donc après il résume, il parle des 10 interdictions qui sont présentes, et je les ai mentionnées rapidement. Après il a dit il dit Ashiran, c'est-à-dire le dernier des commandements qui est signé ici, c'est Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, et voici mon chemin droit, alors suivez-le. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, et ne vous écartez pas de son chemin, ne suivez pas les chemins qui vous écarteraient de son chemin. Donc regardez bien comment Allah ici il a cité son chemin au singulier. Et les chemins qui écartent de la voie droite, il les a cités au pluriel, as-subul.
Et ça, c'est à pas confondre. Je ne sais pas s'il va le citer ici. Non, il ne va pas le dire. Quelqu'un, il peut dire, parce que ça, c'est une preuve comme quoi le chemin, il est unique. Le chemin droit, il est unique. Il n'y a pas plusieurs chemins dans l'islam. Parce qu'il a bien dit, « Wa anna hadha sirati » et après, il a dit, « Wa la tattabiu as-subul » As-subul, ça, c'est un pluriel. Ne suivez pas les chemins. Donc, les chemins de l'égarement, ils sont plusieurs. Mais le chemin de la vérité, il est unique. Il n'y a pas des passions ou des interprétations à suivre en dehors du chemin droit. Et quelqu'un donc qui veut répondre les shubuhat, il pourrait dire pourquoi Allah il a dit dans le Coran Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subula salam. C'est-à-dire Allah guide par le Coran celui qui cherche sa satisfaction au chemin au pluriel de la paix. Il a dit au chemin au pluriel. Ça, on peut pas contredire ce verset clair où Allah il a dit mon chemin au singulier avec cet autre verset. Mais cet autre verset, on peut même l'interpréter par la diversification des bonnes actions dans l'islam. Comme l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il a fait un chapitre dans Riyad al-Salihin au début pour montrer la diversification des bonnes œuvres. Parce que l'islam, il appelle, il y a beaucoup de chemins de se rapprocher d'Allah dans l'islam. Il y a la salat. Celui qui est pas fort dans les nafilas, dans la prière, eh ben il peut être fort dans le siyam. Il peut jeûner lundi, jeudi. Celui qui n'est pas fort dans le siyam, peut-être il est riche, il est fort dans les aumônes. Celui qui n'a pas tout ça, peut-être il est fort dans talab al-ilm. Celui qui n'est pas fort dans talab al-ilm, peut-être il est fort dans le hajj et l'umra. Celui qui n'est pas fort dans ça, peut-être lui, il a un bon comportement envers ses parents. Celui qui n'a pas ça, peut-être lui, il est fort avec les frères dans le service, etc., etc. Donc quand il dit souboula salam, c'est-à-dire les bonnes actions. Parce que les bonnes actions qui rapprochent d'Allah, elles sont nombreuses. Mais le chemin à suivre, celui-là, il est unique. Donc, Chéri dit, « Alladhi awsaytukum bihi fi hatayn al-ayatayn min tarki manhiyat wa a'dhamuha shirk wa fi'li al-wajibat wa a'dhamuha at-tawhid wa as-sirat al-mustaqim. » C'est-à-dire, ce que je vous ai conseillé dans ces deux versets, comme délaissement des interdits, dont la plus grande est le polythéisme, et le fait de faire les obligations dont la plus grande est le tawhid, voilà le droit chemin, as-sirat al-mustaqim. Donc ça aussi, ça interprète le verset de la Fatiha, ihdina as-sirat al-mustaqim. Ensuite, il dit fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul. Cheikh Al-Fawzan dit as-subul al-bid'a wa ash-shubuhat. Donc as-subul, les chemins, c'est les innovations et les ambiguïtés, les faux arguments. Fatafarraqa bikum an sabilihi tamilu wa tushattitu bikum an dinihi. Et donc ici, il n'a pas cité le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, quand il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait, et après, sur le côté, il a tracé d'autres traits. Et quand il a cité, tracé ce trait, il a dit Hadha sabilullah. Après, quand il a tracé les autres traits, il a dit Wahadi subul. Ala ra'si kulli sabilin minha shaytanu yad'uhu ilayha. C'est-à-dire, il a dit à la tête de chacun de ces chemins, il y a un shaytan qui appelle à son chemin. Donc le chemin il est unique. Dans un autre hadith authentique qui a été rapporté par le sahabi An-Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a comparé l'islam à un chemin droit à côté duquel il y a deux remparts, et dans chaque rempart il y a des portes, et il y a une voix qui appelle en haut au-dessus de celui qui marche et au bout du chemin. Et il a dit le chemin c'est l'islam, les deux remparts c'est les limites d'Allah, et les portes sont les péchés. Celui qui appelle au fond du chemin, c'est le Coran, et celui qui appelle au-dessus du chemin, qui pousse la personne à avancer, c'est wa'idullahi fi qalbi kulli mu'min, c'est-à-dire l'exhortateur d'Allah dans le cœur de chaque musulman. C'est-à-dire c'est cette chose qui dans le cœur de chaque musulman te dit de ne pas faire le mal et de faire le bien, comme tout le monde le connaît. Donc l'islam, ça prouve que la droiture du chemin et l'unicité du chemin. مناسبة الآية للباب أن الله سبحانه ذكر فيها جملا من المحرمات ابتدأها بالنهي عن الشرك والنهي عنه يستدعي الأمر بالتوحيد بالاقتضاء فدل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات. Donc c'est qu'Allah il a mentionné ici plusieurs interdits et il les a commencés par le shirk, ce qui prouve que le shirk c'est le plus grand des péchés, le plus grand des interdits, et l'interdiction du shirk implique l'obligation du tawhid. Parce que pour pas associer à Allah, il faut forcément adorer Allah, comme on l'a vu précédemment. Et cela montre que le tawhid, c'est la plus obligée des obligations, et que le shirk, c'est la pire des interdictions. Donc on va finir ici en disant ma yustafadu min al-ayat, ce qu'on peut profiter des versets, awalan anna ash-shirk a'zamu al-muharramat wa anna at-tawhid awjabu al-wajibat. Donc c'est que le shirk, c'est le plus grand des interdits, et que le tawhid, c'est la plus grande des obligations. Thaniyan 'idhamu haqqi al-walidayn. Donc deuxièmement, la grandeur du droit des parents, comme dans l'autre verset, parce qu'il l'a cité tout de suite après le droit d'Allah. Thalithan tahrimu qatl an-nafs bighayri haqq la siyama idha kana al-maqtul min dhawi al-qurba. Troisièmement, le fait qu'il est interdit de tuer quelqu'un sans droit, surtout quand le tué fait partie des proches. Rabi'an tahrimu akli mali al-yatim wa mashru'iyyatu al-'amali 'ala islahihi. Donc quatrièmement, l'interdiction du le fait de manger les biens de l'orphelin, et le fait de qu'il est légiféré de s'efforcer à bien s'occuper de ses biens, c'est-à-dire les faire progresser. Khamisan wujub al-'adl fi al-aqwal wa al-af'al 'ala al-qarib wa al-ba'id. Cinquièmement, qu'il est obligatoire d'être juste dans ses paroles et dans ses actes avec la personne proche et la personne éloignée. Sadisan wujub al-wafa' bil 'ahd. Sixièmement, le fait qu'il est obligatoire de remplir ses engagements. Sabi'an wujub ittiba'i din al-islam wa tark ma 'adahu. Donc septièmement, le fait qu'il est obligatoire de suivre l'islam et de délaisser autre que l'islam. Thaminan anna at-tahlil wa at-tahrim haqqullah haqqun lillah. Donc huitièmement, le fait que at-tahlil wa at-tahrim, at-tahlil c'est le fait de déclarer que telle chose est halal, et at-tahrim c'est le fait de déclarer que telle chose est haram, c'est le droit d'Allah. Et ça rentre dans tawhid al-rububiyya. Donc ça fait une heure, on va s'arrêter là inchallah. On n'a pas fini le premier chapitre, mais on finira donc mardi inchallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.